On est en train de faire une étude sur la recherche de Dieu, qui est important, frère et sœur, de chercher Dieu. C'est pas à cause que j'ai trouvé Dieu en 1980, quand j'ai reconnu Jésus d'avance à la croix, pardonner mes péchés, puis là, je l'ai accepté comme mon sauveur. Je l'ai reçu, j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé le pardon, j'ai trouvé le Saint-Esprit, je marche en communion avec Dieu. Là, je me dis, mais là, j'ai plus besoin de chercher Dieu le reste de ma vie. Il est déjà en moi. Mais ça a l'air que ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a toutes sortes de choses que Dieu veut nous communiquer. De beaucoup plus de choses. Il nous a donné le Saint-Esprit, oui. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Donc, j'ai à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. J'ai à grandir aussi pour obtenir mes victoires. Je dois faire livrer un combat. Je dois résister à des affaires. Je dois rechercher certaines choses qui viennent de Dieu pour me fortifier de plus en plus. Là, j'ai mes victoires et je les conserve. Donc, c'est pas juste d'avoir accepté Jésus. C'est je m'engage dans ce nouveau combat-là de marcher en contact avec Jésus et je m'arrange pour perdre le contact.
Amen.
Puis quand ça arrive dans nos journées, à chaque jour qu'on se lève, quand ça arrive dans nos journées, qu'on ne se sent plus aussi proche de Dieu, mais il faut que tu recherches Dieu. C'est pas qu'il t'avait laissé abandonner, mais il a fait que le système soit qu'il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Dans toutes les sphères de notre vie, il veut prendre le contrôle, mais il veut nous faire vivre des expériences avec lui, mais j'ai à m'approprier. À laisser prendre le terrain dans ma vie, en disant les gens ne sont pas de Dieu, et demander à Dieu de prendre toute la place. Là, je dois rechercher Dieu dans ma vie. Être à la recherche de Dieu, frères et sœurs, c'est toute notre vie. Rechercher les choses d'en haut, c'est toute notre vie. Il faut qu'on tombe en amour avec le Seigneur, qu'on réalise qu'il n'y a rien de plus important que lui. Rien de plus important que lui. Jésus exprimait ça. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, il n'y a rien de plus important que lui.
Amen.
Maintenant, dans la liste de nos ennemis, j'espère que je n'apprends pas qu'on a des ennemis. On a vu la semaine passée l'adversaire principal, le diable. Comment est-ce qu'il est là pour nous enfarger? Pour essayer de nous dérouter, d'essayer de nous bloquer, d'essayer de nous tenter, toutes sortes d'épreuves, pour essayer de nous faire débarquer. Lui, il est condamné. Ce qu'il veut, c'est d'entraîner le plus grand nombre possible avec lui. On n'ignore pas ses desseins, et on travaille contre lui. Parce qu'on croit en la parole de Dieu, on croit en Jésus, on croit à tout ce qui est écrit. On veut livrer le combat. Aujourd'hui, on a une suite à ça. Pour découvrir les ennemis des chrétiens, pas juste l'ennemi de Daniel Poulain, pas juste l'ennemi de 2-3, c'est l'ennemi de tous les chrétiens, et même, c'est un autre ennemi pour tout le monde. Vous allez comprendre quelque chose, je pense que vous le savez déjà, mais ça fait du bien de se le rappeler, il faut toujours revenir sur ces sujets-là.
Il est pas fin.
Un des autres ennemis qu'on va rencontrer ce matin, qu'on va découvrir, ou qu'on va l'avoir déjà connu, puis qu'on va réaliser que de plus en plus comment c'est important de combattre contre cela, c'est le monde. Le monde. On est dans le monde d'aujourd'hui, le monde présent. Puis ce monde-là, c'est le monde des ténèbres.
Ça s'appelle Babylone.
Quand David s'est exprimé, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais il marchait quand même dans la vallée de l'ombre de la mort, où ce que la mort plane, où ce que la mort domine beaucoup de gens, et où ce que la mort aussi est là pour nous agripper si c'est possible. Le Seigneur nous donne des avertissements sévères face à notre comportement dans ce monde. Un chrétien, quand tu donnes tes mots au Seigneur, t'es pardonné de tes péchés, mais il faut regarder ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce que Jésus a déclaré, ce que les apôtres ont déclaré quand ils nous parlent du monde et des dangers de ce monde.
pour le chrétien. Il ne faut jamais oublier que le monde présent, le monde qu'on voit, c'est beau, il y a des arbres, des fleurs, il y a des belles affaires dans ce monde. Mais que le monde présent est contrôlé par la puissance des ténèbres. Le diable règne sur ce monde. Il n'a pas encore été débarqué complètement. Il est encore là. Même si Jésus a remporté la victoire contre le diable et que le diable a été jeté dehors du ciel, il a été précipité sur la terre, puis encore son champ d'action sur la terre, puis la guerre se passe sur la terre. Entre nous qui sommes sur la terre et ces démons-là qui sont dans le ciel, là, dans la, ce qu'on appelle l'atmosphère. Ils sont là, c'est le prince de ce monde des ténèbres ici. Dans 1 Jean 5,19, ça nous dit clairement que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres, est sous la puissance du malin. C'est écrit dans 1 Jean 5,19. Le monde, on va parler du monde en tant que tout ce qui est matériel dans ce monde, même si Dieu est le propriétaire de tout, c'est lui qui est le créateur. Il y a quelqu'un qui est placé là temporairement puis qui règne dans ce monde, c'est le diable. Le monde, présentement, est soumis au diable. Le diable s'est présenté à Jésus comme ayant le contrôle sur ce monde. On voit ça dans 1 Jean, dans Luc 4, les versets 5 à 7. Vous lisez ce passage-là. Ça nous dit, ça c'est au moment où Jésus a été tenté par le diable. Le diable a essayé de faire tomber Jésus dans une tentation. Le diable l'ayant élevé, il a élevé Jésus dans le ciel pour montrer tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable dit à Jésus, « Je te donne toute cette puissance. » Et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données et je la donne à qui je veux. C'est le diable qui parle. Luc 4, verset 5 à 7, si vous avez des doutes, allez lire ce passage-là. Ce royaume terrestre et toute sa gloire, toute la puissance que les royaumes sont dans ce monde, ont été donnés au diable, puis le diable la donne à qui il veut. C'est pour ça qu'on entend souvent parler que des chanteurs rock qui ont donné leurs âmes à Satan pour la popularité, pour la richesse. Ils donnent des cultes à Satan, puis là, ils sont dans la gloire temporaire. C'est le diable qui leur donne, parce que la gloire de ce monde appartient au diable. Ça a mieux été donné.
Je ne l'avais jamais vu, ça. Ça avait été donné au diable. Je l'avais lu dans le verset de Matthieu.
Oui, il est différent.
Oui, il y a une petite nuance additionnelle avec Matthieu, puis ça nous explique vraiment.
Oui, parce que ça dit qu'il a été donné au diable.
Oui. Le monde que nous voyons présentement et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Mais il y a une autre entité qui domine présentement sur ce monde, c'est pas le Seigneur. Bien que le Seigneur peut faire ce qu'il veut, tant qu'on prie, puis quand Dieu a un plan précis à accomplir, Dieu le fait quand même. C'est le propriétaire, il a le droit de tout faire. Il peut changer les règles s'il veut. Mais il y a des choses qu'il a annoncées prophétiquement, ils vont s'accomplir dans ce monde. Mais quand ça va mal, c'est parce que c'est l'ennemi qui est là, dans ce terrain, qui agit contre les gens. Pas juste contre les chrétiens. Dieu a déjà prononcé un jugement contre les chrétiens qui veulent être amis du péché dans ce monde. Comme qu'on voit là, présentement, là, le monde, la manière qui marche, on entend parler à tous les jours aux nouvelles des choses que la loi permet, et que nous, à chaque fois qu'on entend ça, on tombe à terre, on dirait que ça recule, la morale elle recule. Les gens, ils deviennent de plus en plus rebelles à Dieu, et de plus en plus dans le péché davantage. Bon, c'est comme s'il n'y avait rien là, puis ils sont même d'accord avec tout ça, puis ils font la fête avec tout ça, puis nous, quand on apprend ces choses-là, qui se passent dans le monde, on est estomaqués.
Mais Dieu veut pas qu'on imite ce monde. Il faut réaliser qu'on est comme deux mondes séparés. Bien qu'on a encore les deux pieds dans ce monde, on ne fait pas partie de ce monde. On arrive à résister contre ce qui se passe dans ce monde. Dieu, comme j'ai dit tantôt, il a déjà déclaré un jugement pour ceux qui veulent être amis ou fraterniser en communion avec le péché qui se passe dans ce monde. Dans Jean 4, verset 4, ça nous dit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Voyez-vous, quand on parle du monde et tous les plaisirs dans ce monde, c'est un ennemi. C'est l'ennemi de qui, premièrement? Mais c'est l'ennemi de Dieu. Le monde, dans la manière qui marche, c'est le fruit de l'évolution, de la rébellion de l'homme. Dans tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est le résultat de 5 000 ans d'histoire, de rébellion, puis de révolte contre Dieu. La morale, les péchés qui se commettent aujourd'hui, la liberté de pécher comme quasiment à volonté, puis il n'y a aucune conséquence, mais c'est l'évolution de la rébellion contre Dieu. Le monde, comme on le voit aujourd'hui, c'est ennemi de Dieu. Et Dieu, dans ce passage-là, nous dit qu'il a déjà jugé cela, que quand il voit un chrétien vouloir être ami du péché et vouloir faire comme le monde le fait, mais il se fait appeler adultère par Dieu. Il faut réaliser, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs choses qui se passent présentement dans ce monde qui ne viennent pas de Dieu. C'est pas Dieu qui a fait que ça soit ça. Parce que des fois, on pense que Dieu contrôle tout et que c'est la volonté de Dieu qui est en train de se faire. Mais on va réaliser dans ce passage-là qu'il y a d'autres enjeux qui font que des choses qui sont là dans le monde et que c'est pas Dieu qui a fait cela. Regardons dans 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Ça parle aux chrétiens encore. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand on dit ne pas aimer le monde, les choses qui sont dans le monde, on parle des mauvaises choses. Les choses sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu n'a rien là, qu'on aime une fleur, une belle fleur, c'est beau. Dieu crée toute chose bonne au début de la création. Toute chose est à bonne. Même les humains ont été créés bons, les deux premiers. C'est l'évolution du péché qui a fait qu'on est rendu comme c'est là. C'est pas Dieu qui a fait ça. Le mal, c'est pas Dieu. Dieu a créé toutes choses bonnes en partant. Fait qu'il y a des belles affaires. C'est pas contre les belles affaires que Dieu a quelque chose. C'est contre le péché. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car, tout ce qui est dans le monde, là on touche aux choses que Dieu aime pas. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, puis sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez-vous, ce qui fait pas partie du plan de Dieu, de ce que Dieu a voulu ou ce que Dieu a fait dans ce monde, c'est la convoitise de la chair. La chair, elle a des désirs, des convoitises, des passions dans des choses que Dieu ne veut pas, de ce que Dieu aime pas. Il y a la convoitise dans la chair, la convoitise de nos yeux et l'orgueil que peut faire. Tu vois que tu possèdes beaucoup de biens, tu possèdes beaucoup d'argent, ou tu penses bien beau, tu penses bien intelligent, tu penses plus fin que les autres, tu penses plus sain, tu penses plus peu, tu penses plus que les autres. C'est de l'orgueil. L'orgueil, ça vient de l'être humain, ça vient pas de Dieu. Dieu voulait pas que nous soyons orgueilleux. Jésus lui-même, il s'est rendu humble. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Jésus, qui était le créateur de toutes choses, il n'a même pas recherché à s'élever, à se faire féliciter, à rechercher les honneurs terrestres, à se faire monter dans son cerveau, puis se faire ventiler le cerveau, puis se faire du monde comme une ballonne. Donc ça, c'est la nature humaine qui est comme ça, puis Dieu veut pas cela. Fait que ce qu'on voit aujourd'hui de toute l'évolution du péché qui s'est produit, c'est à cause de la convoitise de la chair des gens, la convoitise de leurs yeux et l'orgueil de l'homme qui se pense
au-dessus
de Dieu. Parce que Dieu, quand il dit « fais pas ça » ou « touche pas à ça », il y a des raisons. Puis l'homme se le voit. Moi, tu sais, quand on commence à se penser, moi j'ai raison, moi je le sais, Dieu n'a pas raison. Paul, quand il parlait, c'est Paul. C'est la parole des hommes, non. C'est la révélation du Saint-Esprit pour nous, puis le chemin qu'on doit marcher, il est écrit dans la parole. Quand un chrétien doit réaliser que ce qu'on voit autour, ce qui semble bien alléchant, bien attirant, bien plaisant, je ne parle pas de faire une ride en bateau ou une ride en automobile, ça c'est des choses, il n'y a rien là, je parle du péché, ce qui est bien attirant, ce que le corps aime, c'est pas Dieu qui a mis ça là. C'est le corps qui a développé toutes ces permissions-là. Le corps des humains a amené à prendre des décisions pour renverser les morales qui existent, pour pouvoir ramener à ce qu'on vit de façon de plus en plus libre de pratiquer le péché, mais la Bible appelle ça d'être esclave de ce qui a triomphé d'eux. Les gens ne le savent pas, mais sont esclaves de ce qui domine leur vie. Jésus est venu pour nous donner la liberté sur ces esclavages-là, parce que ces esclavages-là les amènent à la mort éternelle. Avant de venir au Seigneur, nous étions gardés dans la mort par nos œuvres conformes au monde. On était tous des morts, spirituellement parlant, des morts vivants. On vit dans notre corps, mais en réalité, on est tous des morts spirituels, des séparés d'avec Dieu. Et tout ça à cause qu'on marchait conformément au monde dans leur péché et leur permission qu'ils se donnent de désobéir à Dieu. Dans Éphésiens 2, les versets 1 et 2, ça nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. On parle du monde, on parle le monde comme c'est un ennemi de Dieu, c'est aussi l'ennemi de tous les êtres humains, puis l'ensemble des êtres humains qui font partie de ce monde marchaient selon le train de ce monde, et l'ensemble du monde était mort spirituellement devant Dieu à cause de la pratique des péchés qu'on faisait selon le train de ce monde. Pourquoi que ça arrivait à cela? Parce que c'est le prince de ce monde qui régnait sur ce monde et qui entraînait le monde à pécher dans ce monde. Fait qu'on suivait le prince de ce monde, dominé par lui, on obéissait à la mode de ce monde. Si la tendance, la mode est « essayons le sexe avant de voir si on marche ensemble avant de se marier », ça c'est un exemple. Pratiquons ça avec une, l'autre, on les essaye toutes. Après ça, mais si on a une qui dure un bout, on t'offre avec, sinon on se laisse, on continue à pratiquer. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, tu peux le faire, ça.
La bonification.
Là, ça, ça l'amène à la mort. Puis on marchait là-dedans avant d'être chrétien. On péchait devant Dieu parce qu'on faisait comme tout le monde. Le monde était notre ennemi, mais on ne se rendait pas compte que quand on suivait le monde, on venait de se faire, de demeurer dans la mort, de mort continuelle, séparé d'avec Dieu à cause de nos péchés. Ils sortent des slogans, tout le monde l'a fait, fais-le donc. Les gens se justifient en disant, moi, je suis pas si pire que ça, j'ai même couché avec 52 filles, l'autre, là, je vais coucher avec bien plus de filles que moi. Tu sais, on se compare, là, puis on pense que si l'autre rentre, il rentre, mais si l'autre pense qu'il va être sauvé, moi, je suis sûr d'être sauvé, moi aussi, il est fait bien moins que lui des péchés. On se compare, là, puis on s'en regarde, puis on trouve que c'est pas grave. Mais Dieu trouve ça grave. Ça en prenait juste un pour nous empêcher d'entrer. Un seul péché, la minute que tu as une tache sur ton âme ne peut plus rentrer dans la présence du Dieu trois fois saint. On faisait dur parce qu'on a beaucoup plus qu'une tâche. Jésus est venu nous enseigner comment vivre dans ce monde. Jésus était tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il est venu nous montrer comment ça marche, comment est-ce qu'on devrait marcher. C'est ce qui est dit dans Jean 12, 46. Et je suis venu comme une lumière dans ce monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Fait que si on veut sortir des ténèbres, du monde de ténèbres, du monde des ténèbres, qui appartient au prince des ténèbres, si on veut sortir de là, il faut commencer à regarder Jésus, parce que Jésus, c'est la lumière dans ce monde. Il est venu ici pour être la lumière du monde. Qu'est-ce que ça fait une lumière?
Ça brille.
Ça brille, ça l'éclaire. Ça montre l'exemple, ça le dit, c'est quoi qui est les vraies affaires. Jésus ne parle que de la vérité, puis il marchait aussi dans la vérité. Tu veux sortir des ténèbres? Enligne-toi sur la lumière, puis demande à la lumière de venir le faire. Puis il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour cela, afin que tous soient sauvés par lui. Mais il faut réaliser qu'il est la lumière, puis qu'il sait comment vivre dans ce monde. Nous, on ne savait pas comment vivre dans ce monde. Si aujourd'hui on le sait, ben c'est le Seigneur qui nous l'a montré, parce qu'on était tous piégés comme le reste de ce monde. De quel monde font maintenant partie les chrétiens? Si je suis encore les deux pieds dans ce monde des ténèbres. Dans Jean 17, 14, il dit, je l'ai redonné ta parole. Le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, de les préserver du mal. Jésus parlait de son Église. Il dit, il était dans le monde, mais je lui ai donné ta parole. Là, maintenant, ils ne font plus partie du monde. Ils sont encore dans le monde, mais là, Jésus demande à son Père de nous préserver du mal, de nous préserver du mal que dans ce monde. Il faut demeurer en Jésus, demeurer dans le contact avec Jésus, en communion avec Jésus. Nous l'avons reçu un jour, on a demandé pardon au Seigneur, on a réalisé qu'il était notre Sauveur, on l'a reçu, il a pardonné nos péchés. Le Dieu de lumière est venu en nous. Il nous a changé de camp. Je l'ai dit la semaine passée, il nous a sortis du royaume des ténèbres et nous a emmenés dans le royaume de la lumière. Nous sommes dans la lumière. Le chant que nous venons de chanter, le premier chant, nous marchons dans la lumière de Dieu. On est dans la lumière de Dieu, frères et sœurs. Il faut demeurer dans cette lumière. Là, Jésus dit, ils ne sont pas du monde, en parlant de nous. Comme lui, Jésus, n'était pas du monde. Il est venu du monde de la lumière, il est entré dans le monde, mais nous aussi, nous faisons plus partie de ce monde-là. Là, Jésus demande à son Père qu'on soit préservé, gardé, protégé des influences de ce monde. On fait partie de ce monde, on fait partie du monde de Dieu. Comment les chrétiens doivent-ils se sentir dans ce monde? Comment les chrétiens, avec quelle pensée les chrétiens doivent-ils marcher dans ce monde? On l'a chanté aussi dans le dernier chant. Dans 1 Pierre 2, 11, ça nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il nous exhorte à penser qu'on ne fait pas partie d'une cité permanente sur la terre. On est des voyageurs, on est des étrangers, on ne fait plus partie de ce monde. Puis en étant voyageur, mais tu transportes le minimum de choses, puis tu te diriges vers une destination. Tu ne t'installes pas dans ce monde. On est installé pour un 20, 30, 40 ans, mais on ne vivra pas éternellement sur cette terre. On est juste en passage. On est des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Le chant qu'on a chanté, « Je voyage sur la terre, luttant contre le péché, me préparant pour la ville où les élus vont entrer. » On est en voyage, en préparation, en lutte contre le péché, en direction de la ville où ce que les élus vont entrer. Notre cité à nous, notre ville à nous, c'est dans le ciel. On est juste temporairement ici à Montréal.
Amen.
Quelles sont les mises en garde des dangers de ce monde pour un chrétien? Mais n'oublions pas qu'il y a autour de nous des ennemis de la lumière. Jésus a dit, je leur ai donné ta parole, puis le monde les a haïs. Nous haïssent. Nous, on est de la lumière. On est présentement des gens, des habitants de la lumière de Dieu, du royaume de lumière. Nous sommes la lumière dans ce monde. Jésus l'a dit, nous sommes la lumière du monde. Il y a des gens sur cette terre qui sont ennemis de la lumière. En Job 24, le verset 13, ça nous dit, « D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. » Il y a des gens, présentement, qui sont en guerre contre la lumière. Ils sont où, ces gens-là? Ils sont dans ce monde. C'est pour ça que la Bible veut nous faire prendre conscience qu'on ne fait pas partie de ce monde. On est juste en passage, mais on a une mission. On doit éclairer. Il faut prendre garde qu'il y a du monde qui cherche à nous détruire, nous, chrétiens. Comment est-ce qu'ils vont faire? Juste en essayant de nous entraîner dans leur pratique. Ou nous engloutir dans leur mensonge. Le Seigneur nous pousse à ne pas se conformer au monde. On voit ça dans Romains 12, verset 2. On a parlé un peu la semaine passée. On va en parler régulièrement. Ça nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais le siècle présent, c'est le monde dans lequel nous vivons. Il y a 2000 ans, il y avait un siècle présent, puis il y avait une mode dans ce monde-là. Il y avait des péchés dans ce monde-là. Puis dans ce temps-là, ça ne lui disait pas se conformer à cela. Mais 2000 ans plus tard, c'est la même chose pour les chrétiens. Il y a des modes de vie qui sont rebelles à Dieu, sont une influence néfaste pour les chrétiens, puis ça nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Si on veut savoir comment vivre dans le Seigneur, mais ça nous dit, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on discerne, il veut qu'on réalise qu'on ne fait pas partie de ce monde, qu'il y a des choses dans ce monde qu'il ne faut pas toucher. Le Seigneur, il n'a pas dit que ça sera facile. Ça a été facile pour Jésus?
Non.
L'opposition qu'il y avait continuellement quand il essayait de prêcher quelque chose, les ennemis de la lumière venaient contre lui, puis ça l'ostinait à sa place publique, ça lui criait des bêtises, ça a voulu plusieurs reprises le vouloir l'assassiner, le lapider. Oui. Ils ont voulu juste en bas de la montagne. Plusieurs reprises qu'il y a eu tant d'opposition dans des ostinations de points de doctrine. À plusieurs reprises qu'ils ont été essayés de faire tenter Jésus pour le faire tomber dans un piège, là, pour que Jésus prononce de quoi qu'il sera haï par le feu. Le Seigneur n'a pas dit que ça sera facile, mais il nous encourage, puis il nous a donné l'exemple pour traverser les tribulations causées par les combats dans ce monde. Jésus a passé par là, ça n'a pas été facile pour lui, les apôtres ont passé par là, les disciples ont passé par là, et 2000 ans plus tard, c'était qui a passé par là?
À nous.
Nous sommes les enfants de lumière, qu'on doit résister contre les œuvres des ténèbres. Il y en a qui sont ennemis de la lumière, ils vont essayer de nous enfarger, de mettre des bâtons dans les roues, de nous tenter, de nous oppresser, de nous faire du trouble. Les faiseurs de trouble, on en connaît, vous en connaissez sûrement. Jésus a dit dans Jean 16, 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous avertit qu'on va en avoir des tribulations dans ce monde. Parce que des gens ennemis de la lumière qui ont combattu Jésus, Ils ont combattu aussi les disciples, les apôtres. Paul, il y a comment de fois qu'il a dit qu'il était aux prises avec les faux frères et des gens, des juifs qui étaient venus pour s'introduire dans l'église, pour espionner Pierre, pour enseigner
toutes sortes de groupes.
Ça, c'est à part des Romains, puis il y a ceux qui ont du pouvoir politique puis essayaient de mettre de la pression, ou ceux qui étaient religieux, puis leur religion, puis essayaient de mettre de la pression contre Jésus. Mais les disciples sont appelés au même problème. S'ils l'ont fait au maître, ils vont nous le faire aussi. Et si le disciple n'est pas plus grand que le maître, il faut s'attendre que ça arrive. Puis si ça arrive qu'on a des oppressions ou des attaques, il ne faut pas être découragé. Il faut se réjouir qu'on a les mêmes souffrances qui ont été imposées aux frères dans le monde. C'est les mêmes souffrances que les prophètes ont eues avant nous. Quand tu es chrétien, tu es entré dans un combat qui était déjà en place, ce combat-là, avant même que les humains soient créés. C'est un combat qui vient du monde invisible, puis les forces des ténèbres combattent contre les œuvres de Dieu. Puis les humains sont tombés dans la défaite depuis le début de la création. Puis si on a un moyen de s'en sortir aujourd'hui, c'est à cause de la révélation de Jésus.
C'est à cause de son sang.
À cause qui est venu, qui a accompli ce qui était nécessaire pour nous retirer, pour payer le rachat. Il y avait un prix à payer pour qu'on puisse être racheté, puis le payer de sa mort. Son sang est versé pour qu'on puisse l'offrir devant Dieu, ce sang-là, et être lavé de nos péchés.
Amen.
À cause du sang de Jésus, on a une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. On peut rentrer puis être changé de camp, puis on fait partie maintenant des habitants de la ville
éternelle.
Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a rachetés et veut nous débarrasser de la vaine manière de vivre qu'on a appris de nos pères. Puis nous débarrasser aussi de ces conséquences-là. Parce que nos ancêtres vivaient d'une façon qui ont transmis ça à leurs enfants. Puis nous, on est venus au monde et on a appris à vivre de nos pères de telle et telle façon. Si notre père, il y avait plusieurs blondes, on est porté, nous autres, ça en avoir plusieurs. Si nos pères étaient alcooliques, on est porté à l'être aussi. S'ils étaient drogués, on est porté à l'être aussi. Si c'était un voleur, tous les péchés que nos pères nous ont enseignés, on les a pratiqués. Et peut-être qu'on a eu l'imagination, on a fait même plus qu'eux. Et à notre tour, on a donné de mauvais exemples aux gens qui nous entourent. Dans 1 Pierre 1,18, ça nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. La vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Nos parents nous avaient enseigné une vaine manière de vivre. Une manière de vivre qui nous entraînait directement dans l'état ardent de feu et de soupe. Il y a juste ceux qui ont des parents nés de nouveau qui ont pu connaître autre chose. Gloire à Dieu, c'est des nouveaux mondes dans une famille née de nouveau, parce qu'il n'y en a pas gros de nés de nouveau dans ce monde, comparativement à la multitude d'humains qui sont perdus et aveugles et ne connaissent pas le sentier de la justice. Il faut réaliser que ça a coûté cher à Dieu qu'on puisse être racheté pour sortir de ce mode de vie-là du monde qu'on avait hérité de nos parents. C'est le sang précieux de Jésus-Christ qui nous l'accorde. Le Seigneur ne veut pas que nous pensions qu'à courir après l'enrichissement. C'est un autre piège dans ce monde, frère et sœur, de vouloir s'enrichir par des biens ou de l'argent. Jésus a déjà promis qu'il pourvoirait à nos besoins. Il ne veut pas qu'on soit dans une recherche effrénée, une recherche sans frein à vouloir posséder tous les biens de ce monde. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a un plan bien meilleur que cela. Il veut faire de toi un pécheur d'homme. Il veut faire de nous des pécheurs d'hommes. On pourrait dire, oui, mais Seigneur, ma sécurité financière doit passer en premier. Puis mon fonds de pension terrestre, pense plutôt qu'on pense éternel. C'est ça, Dieu, que tu penses. Il dit, amonce-toi des trésors dans les cieux, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là où sera ton trésor, là, il va être ton cœur. Si ton trésor est dans le ciel, mais tu penses qu'à te ramasser un big trésor, comment tu vas y arriver? Premièrement, tu vas changer de royaume lorsque tu accepteras Jésus dans ta vie. Une fois que tu l'as reçu, tu vas te mettre à focusser sur Jésus puis sur les choses d'en haut. Ta vie, ça va être que de servir le Seigneur, être un serviteur, à vouloir combattre, à lutter contre le péché, à vouloir être séparé de ce monde. Le Seigneur, ses regards sont sur toi et il va te bénir.
Amen.
On va t'en mettre des choses que tu vas t'en avancer des récompenses.
C'est super le fun, ça.
Amen. Alléluia. Tu as de la joie. Il y a de la joie. Puis même tu découvres ton rôle. Tu découvres ton identité en Jésus lorsque tu te mets à obéir, à marcher dans les voies du Seigneur.
Puis béni.
Tu vas être béni, tu vas bénir les autres.
Amen.
Tu vas être une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Parce que le Saint-Esprit va le faire en toi. Mais ce qui veut nous faire comprendre que dans ce monde, il y a un piège, puis le piège est le fait de vouloir. Il y en a plusieurs pièges, mais celui-là, je vous parle. C'est de vouloir vous enrichir, penser qu'à penser à faire de l'argent. Il y a un piège. Dans 1 Timothée 6, 9, ça nous dit, ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Si on veut s'enrichir, si on pense qu'on vient de la terre, on doit s'enrichir physiquement, on est en train de s'égarer. Pense plutôt à t'enrichir pour ta vie éternelle. La parole de Dieu aussi nous donne toutes sortes de révélations, ça nous donne du discernement qui provient de la vérité qui est en Jésus-Christ, en Yeshua. La parole de Dieu nous donne déjà les réponses du pourquoi qu'on est là et qu'est-ce qu'on a à faire. Ce que le monde n'a pas trouvé et qu'il cherche encore. Là, ils sont mis plein de philosophies, plein de sciences, de réponses scientifiques qui les rendent encore plus perdus. Dans Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Les vraies réponses sont dans le Christ, proviennent du Seigneur. Tout ce qu'on a comme révélation dans sa parole, c'est la vérité. On n'a pas besoin de chercher. Les gens qui connaissent pas Dieu, ils cherchent les deux yeux aveuglés, puis leurs réponses qu'ils donnent ne sont que des tromperies. Ils pensent qu'ils ont découvert les choses, mais ils rendent la vie encore plus compliquée à tout le monde. Il aurait pu leur dire, allez à Jésus, Jésus va vous en sortir. Il donnait toute la gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il y a dans ce monde. En parlant de choses, là, de philosophie, puis des traditions d'hommes, puis des rudiments du monde, là, on vous en nomme quelques-unes de ces choses-là qui sont dans ce monde, puis qui sont un grave piège pour les chrétiens. L'idolâtrie, c'est dans le monde, c'est un grave piège pour les chrétiens. Ceux qui sentent, je sais pas pourquoi, mais ils ont le désir de se mettre une statue, puis de parler à cette statue, ou une image, et parler à cette image. Là, ils se forment des religions, il n'y a pas juste une religion, il y en a plein de religions basées à des prières, à une statue, à une image. Mais c'est des rudiments du monde, c'est des traditions du monde qui fait qu'il lit le monde dans les ténèbres. Oui.
Il y en a qui parlent à leurs parents qui sont décédés, puis là, ils demandent à leurs parents de leur aider dans
les chrétiens. Aussi. Ça, dans la idolâtrie, vous pouvez inclure tous ceux qui prient leurs parents décédés ou prier des saints apparemment béatifiés par les religions ou prier des sages, comme ils disent, des mystiques, là, qui seraient des êtres apparemment soit réincarnés ou ou qui sont dans le monde invisible, ou dans les diversités des religions. Il n'y en a pas 50 religions. Il n'y a pas 50 créateurs. Il y en a un seul qui est créateur. Un seul Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Les autres, c'est toutes des imposteurs.
Et voilà.
C'est toutes des ceux qui veulent prendre la gloire du Créateur. Des tromperies des hommes et des démons.
Ah, c'est bon.
Quand on parle de l'idolâtrie qui fait partie des choses de ce monde qui sont un piège pour les chrétiens, parce que présentement, il faut être franc, il faut être vrai, il y a des vrais chrétiens qui sont rendus tellement mêlés, qui sont rendus qu'ils veulent s'associer avec des idolâtres. C'est pas des farces. Dieu en horreur, l'idolâtrie, c'est un des 10 commandements de Dieu. Il y a des chrétiens présentement qui vont dans des cultes, des réunions
voués
à des statues, puis des images, puis des, d'autres faux dieux. Puis ils disent, mais il faut marcher dans l'amour. C'est faux. C'est faux. Il y a un seul Dieu, puis c'est... Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Tu vas à Dieu le Père en passant par Jésus. Tout le reste, c'est tout du mensonge. C'est ce que la Bible déclare. Il ne faut pas s'associer à ces choses-là. C'est des souillures. Notre âme se souille, notre âme se salit par des démons. Parce que quand on rend culte à une idole, soit dans une statue ou une image, c'est comme si on rend culte à des démons. Il n'y a pas le dit dans la parole. Il en parle dans Romains, il en parle dans Corinthiens, dans le Nouveau Testament. Là, il y a l'ensemble des religions, il y a l'ensemble de l'éthique et les morales élastiques. Ça fait partie de ce monde, l'éthique. Aujourd'hui, là, ils ont un mode de vie, ils acceptent des choses que c'est loin d'être accepté par la parole de Dieu, dans la morale, la manière de se comporter dans le monde. Dans les morales, je pense à l'inclus, comment vivre la sexualité, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on lit entre les lignes. Il y a une morale qui est élastique. La morale, là, est élastique parce qu'elle change selon la pensée du monde où c'était rendu. Là, 50 ans, cette morale-là était ratissée. Là, aujourd'hui, elle est élargie. Dieu n'a pas changé d'idée. La Bible n'a pas changé d'idée. Jésus n'est pas venu pour changer la Bible. La morale de Dieu, la manière de vivre que Dieu trouve acceptable, c'est déjà enseigné dans la parole. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui était juste pour ce temps-là. C'était aussi pour notre temps d'aujourd'hui. Jésus a dit, ma parole ne passera point, elle demeure éternellement. C'est cette parole que je vous ai dit qui va juger les gens à la fin des temps. Parce que si les gens vont dire, ouais, mais il faut évoluer, on n'est plus dans ce temps-là. Les gens du monde pensent comme ça. Les religions du monde pensent comme ça. Il y a des chrétiens qui ont perdu la notion de la vérité, puis ils sont rendus qui parlent comme ça. C'est pas de Dieu.
Dieu est le même hier, aujourd'hui.
Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, puis sa parole aussi. Elle passera pas, puis elle va demeurer éternellement.
Ses lois sont pas négociables.
C'est pas négociable. Il y a tout, là, quand je parlais de la morale élastique, il y a des pratiques sexuelles, de l'impudicité comme de l'adultère. Toutes les formes de sexualité qu'on voit aujourd'hui, les libertinages, ce qui est facile, tout le monde la sait, comme je disais tantôt, c'est du péché, ça entraîne le monde dans l'état ardent de feu et de soufre.
Il y a aussi la magie blanche.
Ah, ça, je vais en parler aussi. Rendu presque là.
Okay.
C'est le suivant.
C'est juste la...
La sexualité, frères et sœurs, est rendue facile là, de pécher dans la sexualité. Tu peux pas avoir plus facile que ça. Ça n'a jamais été si facile. J'ai juste à taper sur Internet dans Google « sexe » ou juste écrire « XXX ». J'ai même pas besoin d'écrire grand-chose. J'ai juste besoin de savoir une lettre de l'alphabet, le « X », je le répète trois fois. Puis des images, puis des vidéos, puis de toutes les formes de perversion sexuelle sont toutes là, affichées à volonté, gratuitement. C'est le monde. Mais ce n'est pas pour les chrétiens. Le chrétien n'a pas le droit d'aller là. C'est du péché. Ça nous amène à la mort. Toutes les formes de sciences occultes, que ce soit la magie blanche ou la magie noire, ou la magie grise, parce qu'en notre grise, apparemment, il y en a peut-être de toutes les couleurs. La magie, peu importe la couleur qu'elle est, c'est de la magie. C'est qui fait la magie?
Satan.
C'est Satan. Nous, c'est pas la magie qu'on veut. On veut la puissance de Dieu. On veut le Saint-Esprit en action, les dons spirituels. On veut ce qui vient de Dieu. Ce qui vient du monde, parce que la magie, c'est beaucoup plus profond qu'on pense. C'est aussi des pratiques magiques avec des ablutions, des popotes magiques. Les sorciers qui font des popotes, là, des soupes, là, comme Astérix avec sa potion magique, là. Mais c'était des druides qui font des potions dans le but de donner des pouvoirs. Ou même guérir des gens. Mais c'est des pratiques du monde. C'est pas des pratiques qui viennent du Saint-Esprit. Comme l'astrologie, ou comme aller voir un médium, ou parler à ton ancêtre qui est décédé, ou parler à un esprit qui protège. Ou peu importe ces sciences-là, c'est toutes des sciences défendues. Dieu veut pas qu'on touche à cela. Les esprits, c'est des esprits impurs. Dieu est trois fois saint. Il y a une différence entre trois fois saint et impur. Impur, c'est sale. Puis si tu touches à ce qui fait partie du monde des ténèbres, c'est sale, tu te salis. Si t'es sali, t'es souillé, ça coupe ta relation avec le Saint-Esprit. Pensez pas d'être rempli du Saint-Esprit et rempli de magie. C'est impossible. Si on pense qu'aucun esprit peut affecter les chrétiens, c'est une fausseté. On voit dans Corinthiens que les Corinthiens avaient reçu un autre évangile, avaient reçu un autre Jésus, et avaient reçu un autre esprit. Puis, je vais un jour, si Dieu le permet, on va en faire une étude sur le monde des esprits qui affecte les églises. Il n'y a pas juste le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans les églises. Puis dans Jean, ça nous dit, ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Des faux enseignants, des faux docteurs animés de d'autres esprits que le Saint-Esprit. Faut faire attention. Puis quand on parle aussi de la mode de vie de l'alcoolisme, c'est encore la même affaire. C'est un piège du diable dans le but de capturer des gens, puis les tenir captifs, ils sont liés, puis on le sait que l'ivrognerie, c'est de la débauche, puis qu'il n'y a aucun ivrogne entrera dans le royaume, comme si c'est la même chose pour la drogue. La drogue, c'était associé avec la magie. Alors, dans le temps, là, c'est le mot drogue, c'est enchantement, c'est pharmakeia, qui veut dire, on a pris le mot pour pharmacie, pour les médicaments, mais c'est pas la drogue dans ce sens-là, c'est la drogue qui est utilisée pour entrer en transe, contacter les médiums, ils contactaient les démons, il y avait des révélations, les chamans, c'est ce qu'on, sous les plantes hallucinogènes, tombent en transe, contactent les démons, ils ont des révélations, puis après ça, ils savaient comment faire pour avoir une guérison à quelqu'un. Ils faisaient une popote, qui est une potion magique, faite, inspirée par les médiums. Ils donnaient ça pour soigner les malades. C'est ça, la magie. Mais c'était au départ par les drogues. Dieu veut pas qu'on soit drogué, autant qu'il veut pas qu'on soit alcoolique. Ce qu'il dit, c'est que quand tu tombes dans des buzz, comme ça, c'est de la débauche quand t'es ivrogne. Mais drogué, la minute t'en prends une coupe de porte, t'es déjà aussi posé que si t'as pris un six-pack. Mais ça buzz. Ton cerveau t'est rendu un débauché. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça dit pas ne buvez pas de vin, ça dit ne vous enivrez pas. Il y a une différence. C'est que l'ivresse, c'est quand t'en as pris, Puis là, t'es rendu trop, tu buzzes. Ton buzz, là, il est rendu, t'as dépassé la ligne de la bienséance et de la maîtrise de soi. Dans Galates 5:21, il nous parle toute une liste des œuvres de la chair, puis il dit, je vous le dis d'avance, comme j'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le beau avoir cru en Jésus, mais si tu es un gars tout croche dans ta vie, tu ne rentreras pas. Il faut que tu sois un gars qui marche dans le sentier resserré et qui combat contre ça parce que ça vient du monde, ces tentations-là. On va voir la semaine prochaine comment est-ce que notre chair est aussi une de nos ennemis. Elle a des passions, des pulsions et des désirs contraires à celles de l'esprit. Elle est attirée par les choses de ce monde. C'est pour ça qu'un chrétien est un peu mal à manger, parce que Dieu nous dit, marche pas selon le monde, ça va t'emmener dans la perdition, mais il dit aussi ta chair est attirée par toutes ces affaires-là. Tu vas combattre même contre ta chair. Manquez pas la réunion sur une prochaine. Il y a des gens, c'est pas des fans, c'est ce que je vous dis là. On parle du monde, comment c'était notre ennemi, là. Il y a des gens qui ont abandonné l'appel de Dieu, qui ont abandonné leur ministère pour l'amour du péché du monde. Il y avait des appels de Dieu, il y avait des ministères de Dieu, qui ont abandonné cela parce qu'on tombe en amour avec des choses qui étaient dans ce monde. Dans 2 Timothée 4:10, ça nous dit car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ouch. Il y a des chrétiens qui ont débarqué de l'appel de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont encore entrés dans l'appel de Dieu à cause de leur conduite qui n'est pas sainte, séparée des pécheurs.
Tu ne peux pas mentir.
Dieu nous voit tels que nous sommes. Dieu nous voit tels que nous sommes. Puis quand on a accepté, on dit, Seigneur, je veux sortir de cette vie-là, t'es un repentant, puis c'est correct ça, t'es un repentant, puis tu voulais changer de vie. Tu dis, Seigneur, je veux sortir de mes péchés, je veux changer de vie, je veux te suivre, prends ma vie, je la donne, pardonne mes péchés, donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans cette nouvelle vie. Mais la vitesse de croissance va être en raison de ta vitesse de renoncement. Si tu résistes à Dieu, tu vis d'une manière plus proche, en plus, tu ne demandes pas pardon, il y a même des bouts que tu n'avances pas. Il y a même des bouts que tu recules. Tu rétrogrades. Il y en a même des gens qui ont même tellement rétrogradé qu'ils sont revenus comme ils étaient avant. Ça dit, c'est comme le chien qui est allé se revautrer. Le chien, la truie lavée est allée se revautrer dans le bourbier.
Ou le chien retourne à
ce qu'il avait vomi. Ou le chien retourne à ce qu'il avait vomi.
Des fois, ils disent comme quoi que c'est pire.
Oui, ils disent la dernière conscience,
c'est le démon.
Mieux valait n'avoir jamais connu que de retourner dans ce qu'on était. Le jugement va être engourbé. Voulons-nous être délivrés et conduits par le Seigneur?
Oui.
Amen. Veux-tu la délivrance de ce monde? Mes frères et sœurs, le Seigneur nous la donne aujourd'hui. Il veut nous délivrer de nos péchés. Dans Philippiens 2:15, ça nous dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Fait qu'il y a une possibilité aujourd'hui que nous, enfants de Dieu, qu'on soit différents du reste du monde. On est appelé à être différents. Au milieu d'une génération perverse, qu'on soit des enfants de Dieu purs, irréprochables, irrépréhensibles. As-tu qu'ils veulent? Il dit, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est ça que Dieu veut. On brille comme des flambeaux. Et un flambeau pour qu'il brille dans ce monde, pour qu'il soit allumé par la lumière divine, il faut qu'il soit séparé, parce que c'est pas long que si un chrétien patauge dans les péchés de ce monde, pour imiter le monde, il n'éclaire plus du tout, il est complètement enseveli par les ténèbres, on ne la voit plus sa lumière. Le sel a perdu sa saveur. À quoi qu'il va s'arriver, il reste juste à éviter le monde, il est purifié par les hommes.
2 Pierre 2, 9. N'oubliez pas ce verset-là. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Vous voulez être délivré si vous êtes en, si vous avez réalisé que vous êtes enchaîné par certaines choses dans ce monde. Vous voulez être délivré. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Êtes-vous une personne pieuse? La piété, là, c'est prier, louer Dieu, servir Dieu, rechercher être en contact avec Dieu. Le titre du message, c'est « Recherchons Dieu afin qu'il nous délivre de notre ennemi, le monde. » C'est ça le but. Il faut que tu deviennes pieux. C'est pas en te laissant aller une passion que tu vas avoir des victoires. C'est le Seigneur qui peut nous délivrer. Pour faire un appel, je veux prier pour ceux qui ont de la misère. On est dans des combats. Il faut être franc. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le Seigneur veut nous pardonner. Il veut nous renouveler. Il veut nous délivrer. Il s'est délivré de l'épreuve. Vous êtes pris dans des combats, dans des luttes. Il y a juste Jésus qui peut vous délivrer. Moi, je peux pas. Aucune personne qui est là ne peut. Personne aussi, le médecin peut pas, votre psychiatre, peu importe qui vous allez voir, il y a juste Jésus-Christ qui peut vous délivrer. Je fais un appel, s'il y en a qui se disent dans les cœurs qu'ils aimeraient qu'on prie pour eux autres. On va prier pour vous. On prend le temps. Faites le point devant Dieu, c'est pas devant moi, mais Dieu veut que tu commences à le chercher dans ta vie, et tu vas être délivré par Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Ta parole nous enseigne toutes sortes de choses qui fait que nous fait réaliser les pièges, les tentations, les combats qu'on a livrés dans ce monde. Seigneur, merci pour ta parole, parce que par ta parole, elle nous éclaire et aussi elle nous fortifie pour nous donner le désir d'avancer dans ce monde, puis de garder courage, puis de persévérer dans tes voies. Tu nous as montré le chemin, Seigneur, puis maintenant on veut marcher avec toi, en communion avec toi, dans ce chemin-là, un chemin de renoncement, un chemin de sainteté. Seigneur, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit, de nous délivrer, et aussi nous pardonner toutes nos faiblesses, tous nos péchés. Conduis-nous dans tes voies, Seigneur. Prends toute la place. Donne à chacun de saisir ses victoires dans le nom de Jésus.
Amen. Amen.